chaque fois. Hein. Bonjour à tous ceux qui viennent tous les dimanches aussi. Soyez les bienvenus aussi. Moi, j'étais très touché par la parole prophétique que nous a transmise Marie. Cette invitation à faire silence devant Dieu et attendre que lui nous donne, qu'il nous inspire, qu'il vienne nous remplir. Alors bien sûr, on a démarré une série de prédications sur le livre des Actes, et bien sûr ça nous rappelle ce que Jésus a dit lui-même à ses disciples. Attendez, restez dans la ville, et attendez, vous recevrez ce que le Père a promis. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être s'afficher. Voilà. Et du coup, la question, c'est, êtes-vous prêt pour un changement? Pour vivre un changement? Bon, il y a quelques oui dans la salle. On va y aller, alors. Certains décrivent les humains. Vous savez comment, qu'est-ce qu'on dit des humains? Ce sont des êtres d'habitude et d'émotion. Habitude et émotion. Des êtres qui aiment leurs habitudes et sont sensibles à leurs ressentis. Et qui n'aiment pas que ni l'un ni l'autre soient un petit peu bousculés. Est-ce que tu aimes le changement? Est-ce que tu désires de tout cœur un changement? Un changement, c'est une transformation, une altération, une évolution pour une personne, une situation, un événement. C'est le fait de remplacer quelque chose par autre chose. Ça implique que certaines choses ou situations vont être abandonnées, délaissées, perdues, pour laisser de la place à des nouvelles choses, nouvelles situations. Et c'est ce que nous allons observer ce matin dans le passage du livre des Actes, précisément le chapitre 2 que nous allons survoler et qui raconte de nombreux changements. Les changements, est-ce que nous aimons ça? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des changements qui sont volontaires et on les apprécie peut-être plus que les changements que l'on subit. Et un changement, ça peut demander du temps pour s'y habituer. Ça va transformer nos vies, bousculer nos croyances, remettre en question nos habitudes, confronter peut-être notre image de nous-mêmes, modifier nos relations, mais aussi nous ouvrir à des opportunités, modifier peut-être notre qualité de vie. Toutes ces choses auxquelles nous sommes fortement attachés. Et un changement, ça apporte un lot d'incertitudes et donc potentiellement de peur. Est-ce que ça va s'améliorer? Ou est-ce que ça va se dégrader? Alors rappelez-vous, il y a quelques années, il y a un homme qui disait « Le changement, c'est maintenant ». Il disait ça pour se faire élire. Je vous laisse juger, mais depuis hier, vous savez que notre pays a un nouveau gouvernement. C'est un sacré changement. On a vécu 2 mois et demi sans. Alors ce nouveau gouvernement, je ne vais pas en dire plus, mais en regardant la télé hier et les commentateurs, j'ai vu qu'il plaisait à certains et il déplaisait à d'autres. Bon, ça, ce n'est pas tellement un grand changement. Ça a toujours été comme ça. Par contre, tous les commentateurs que j'ai entendus s'accordaient sur deux choses. Ce gouvernement, il était très faible, il avait une très faible marge de manœuvre. Et le deuxième point, c'est que sa tâche allait être vraiment difficile. Et donc ce changement, il est difficile et il génère peut-être pour nous les citoyens une grande insécurité. Et notre pays qui est déjà atteint par des crises à différents niveaux, je crois que nous avons besoin que les femmes et les hommes qui vont nous gouverner puissent faire avancer les choses et dans le bon sens. Et donc, notre Bible nous invite à prier pour ces personnes, pour celles et ceux qui prennent des responsabilités et nous gouvernent. Paul, il écrit ça à Timothée, « Afin que nous vivions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Alors je termine là ma petite excursion vers les changements politiques et je voudrais qu'on revienne à nos moutons, le livre des Actes. Donc la semaine dernière, notre pasteur Paul a démarré donc ce thème des prédications que nous allons suivre pendant plusieurs semaines, le livre des Actes, et que nous allons aussi reprendre dans les groupes de prière à partir du mois d'octobre. Et donc ce livre débute par le rappel de quelques paroles de Jésus. Vous recevrez dans peu de jours une immersion dans le Saint-Esprit. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Paul, notre pasteur, nous a rappelé que ces trois éléments sont les constituants de la suite du livre, les trois actes que l'auteur du livre, Luc, développe dans la suite. Et donc, dans le chapitre 2, que nous allons survoler ce matin, nous voyons s'opérer de grands changements. En quelques mots, que lit-on dans le chapitre 2 ? Alors, on ne va pas le dire ensemble parce que c'est trop long, mais je vous propose un petit condensé. On se rend compte, dans ce chapitre, il y a trois moments particuliers. Le premier, c'est quand le Saint-Esprit descend sur le groupe des disciples de Jésus. Le texte nous parle d'un bruit tonitruant. On reviendra là-dessus. C'est les versets 1 à 13. Le second moment dans le chapitre, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui prend la parole pendant un long moment. Hein, ça dure 27 versets, c'est-à-dire, j'ai fait mes petits calculs, 60% du chapitre. Et à cause du bruit violent qu'il y a eu, les gens sont accourus de toutes parts. Vous imaginez un petit peu comme s'il y avait une explosion au centre-ville. Et ben, tous les gens autour vont venir voir qu'est-ce qui se passe. Et Pierre prend la parole et leur explique, c'est la promesse ancienne qui vient de se réaliser. Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur nous. Ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Jésus de Nazareth, cet homme que vous avez livré à la mort en le faisant crucifier, mais Dieu l'a relevé d'entre les morts. Et nous en sommes les témoins, nous l'avons vu et revu. Puis Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, en l'élevant à la droite de Dieu. Et c'est de là qu'il envoie le Saint-Esprit. Et puis après, Pierre, à la fin de sa prise de parole, invite ceux qui l'écoutent à mettre leur foi en Jésus. Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés, et vous recevrez, vous aussi, le Saint-Esprit. Et là-dessus, il est raconté que 3 000 personnes, furent ajoutées aux disciples ce jour-là. Bon, ils ne rentreraient pas dans la salle, là. Hein. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ces 3 000 ont été baptisés. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, où est-ce qu'ils ont trouvé de l'eau. Enfin, bon, peu importe, ça ne nous est pas raconté. Et donc, on arrive à la troisième partie de ce chapitre. C'est les versets 42 à 47 qui donnent un descriptif d'une manière assez succincte et condensée, une sorte de synthèse de la vie de ces 3 000 et quelques disciples entre eux. Je vous propose qu'on les lise ensemble à partir du verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Notre Père, nous te prions que ce matin, tu viennes nous inspirer, tu viennes nous remplir. Merci pour ta parole, merci pour les bienfaits que tu nous donnes, Seigneur. Amen. Alors ce passage bien connu nous présente en quelques mots une sorte de tableau, c'est comme ça que les commentateurs appellent ce passage, de la vie des disciples, un peu comme nous avons des tableaux qui viennent décorer notre pièce, qui représentent quelque chose. C'est dans ce sens-là. Et ces quelques phrases ont un effet très particulier, car ils dégagent une atmosphère particulière de foi, de piété, d'amour, d'harmonie, de paix, de joie. Et tout au long des siècles et dans toutes les cultures, les croyances sont référées à cette description presque idyllique et en ont tiré des bienfaits pour leur temps. Et puis peut-être certains lisent ce passage avec une sorte de nostalgie, comme si c'était ce à quoi l'Église d'aujourd'hui devait ressembler. Alors on y reviendra tout à l'heure. Mais avant ça, revenons donc à la première partie du récit. Le Saint-Esprit est répandu sur le groupe de disciples. Je parlais de changement au début, et voilà ce passage qui nous montre plusieurs changements. Ça produit un grand changement dans la vie des disciples. Rappelez-vous, nous sommes quelques semaines après la mort de Jésus. Les autorités civiles, religieuses, sont très féroces vis-à-vis des croyants. Jésus est ressuscité, mais les disciples vivent dans la peur, ils se retrouvent contre eux. Il reste dans ce qu'on appelle la chambre haute, une pièce qui avait été mise à leur disposition à un endroit dans Jérusalem. Ils se cachent, ils ont peur, car les autorités ne les aiment pas vraiment. Mais ils se retrouvent régulièrement pour prier, comme il les a raconté dans le chapitre 1. Ils attendaient la réalisation de la promesse, comme Jésus leur avait dit avant de les quitter. « Voici, j'enverrai ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville. » Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et voilà le changement qui arrive. C'est le chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler d'autres langues. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux et de toutes les nations. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Mais que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors je suis désolé d'avoir un peu amputé le texte là, pour qu'il tienne sur la slide, vous me le pardonnerez, et je vous invite bien sûr à le lire en entier. Donc, premier changement, les disciples sont réunis ensemble, comme à leur habitude, dans la discrétion, dans le secret. Et voici que l'Esprit descend sur eux avec un grand bruit tonitruant. Et ce bruit ameute la foule qui se demande ce qui a bien pu se passer. Alors moi, personnellement, j'aime que l'arrivée du Saint-Esprit se fasse dans un tel fracas. C'est un énorme changement par rapport à l'arrivée de Jésus. Rappelez-vous, Jésus, il est né discrètement dans un village et pas dans la capitale. Il n'y avait plus de place pour lui dans les maisons, alors il est né dans une étable, lui, le roi des rois. À l'inverse, lors de sa mort, lorsqu'on l'a cloué sur la croix, c'était un spectacle public auquel assiste toute la population, les disciples, les autorités religieuses et politiques. Mais à nouveau, le jour de la résurrection, ça se passe un peu comme sa naissance, dans le silence, dans la discrétion. Moi, ça me touche que Jésus, le Fils de Dieu, l'homme-Dieu, vive ce moment dans le silence, dans une sorte de solitude, dans la discrétion. Moi, je trouve que ça nous amène à l'adoration. Sur qui il est, lui, Jésus ? Qui est notre Dieu, notre Père ? Car Jésus est décrit comme l'image du Dieu invisible. Jésus disait de lui, « Je suis doux et humble de cœur. » Comme sa naissance, sa résurrection se passe dans une sorte de retenue, de mesure, de pudeur, de sobriété. Mais lorsque le Saint-Esprit est répandu sur les disciples, il y a un grand bruit tonitruant, un grand fracas qui attire les foules. Et les disciples qui étaient calfeutrés ensemble sans faire de bruit sont mis à découvert. Ils sont maintenant exposés. Et ça, c'est un grand changement pour eux. Est-ce qu'on est prêt à le vivre, nous, ce changement ? Ou est-ce qu'on préfère rester entre nous ? Les gens qui accourent sont stupéfaits. Ces gens parlent des merveilles de Dieu. Nous les comprenons. Ils le disent dans notre langue maternelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis d'autres se moquent. Bon, ils ont un peu trop insisté sur le jet et les liqueurs. Alors Pierre prend la parole pour répondre à la question posée par tous ceux qui ont accouru. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, nous ne sommes pas ivres. Il est 9h du matin. C'est ce que dit Pierre. Voyez, tous les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est un autre grand changement. Dans l'histoire d'Israël, le Saint-Esprit était donné par Dieu uniquement à 3 catégories de personnes. Des personnes très restreintes. Il était donné aux prêtres, aux prophètes et aux rois. Et voilà que conformément à la prophétie écrite par le prophète Joël, environ 400 ans avant, le Saint-Esprit est maintenant déversé sur tout être humain, hommes et femmes, libres, esclaves. Chacun des disciples devient à la fois prêtre, prophète et puis fils du grand roi. Ce n'est plus réservé à quelques-uns pour un service particulier, mais chacun reçoit l'onction du Saint-Esprit pour devenir serviteur, servante. Nous avions reçu en mars dernier Timothée Minard pour notre carrefour de l'enseignement, et je vous invite à réécouter ses enseignements, ses conférences sur le fait que l'Église, nous sommes devenus un peuple prophète. Tous remplis du Saint-Esprit, cette phrase revient dans la suite des Actes comme un refrain. Et nous constatons qu'ils ont reçu le Saint-Esprit d'une manière définitive, mais à la fois c'était aussi une expérience renouvelée. Dans Acte 4, ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit. L'endroit où ils sont se met à trembler. On voit que c'est une expérience communautaire, mais aussi une expérience personnelle. Il est dit que, aussi dans Acte 4, Pierre était rempli du Saint-Esprit quand il va s'adresser au Sanhédrin qui l'accuse. Alors on peut se poser la question, est-ce que le Saint-Esprit vient puis repart? Ben non, il demeure en nous, avec nous, sur nous. C'est Jésus qui l'a enseigné dans Jean 14, les chapitres 14 à 16. Mais nous, dans notre manière de parler, même certains de nos chants nous induisent en erreur. Quand nous chantons « Viens, Saint-Esprit », ben on a l'impression qu'il n'est pas là et qu'il faut l'appeler à venir. Alors que Jésus nous dit qu'il est constamment et éternellement avec nous, qu'il demeure. Alors faisons attention. Mais ce que nous voyons, ce que nous pouvons comprendre dans le livre des Actes, c'est que le Saint-Esprit est donné à chaque croyant définitivement et pour toujours. Mais le livre des Actes parle d'une sorte d'expérience qui peut être renouvelée, qui peut arriver à plusieurs reprises. Et cette expérience, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. On comprend aussi que si c'est une expérience qui peut être renouvelée, c'est que c'est une expérience qui a une durée limitée. Ça dure un moment, puis ça s'évanouit. Et puis nous pouvons le recevoir à nouveau, le redemander à nouveau. Et du coup, la question que je vous pose, et que je me pose aussi à moi, mais ça remonte à quand la dernière fois que tu as été rempli du Saint-Esprit? Hier? Ce matin? Le mois dernier? Il y a 10 ans? Parce que on voit, dans ce que nous lisons, que lorsque les disciples sont remplis du Saint-Esprit, les choses bougent et elles avancent. Ce n'est pas uniquement pour se sentir bien sur le moment, mais c'est pour servir. C'est le cas des 7 personnes nommées plus tard, qu'on appelle les diacres. Ils ont été choisis car ils étaient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. C'est le cas de Philippe, quand on veut témoigner. Philippe, dans le chapitre 8, il était rempli du Saint-Esprit et il témoigne à différentes personnes. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit à nouveau. Alors d'une manière communautaire, c'est pour ça qu'on a prévu en novembre 4 soirées spéciales pour progresser collectivement, individuellement dans la vie de l'Esprit. Pour rechercher ensemble à être remplis du Saint-Esprit, à recevoir les dons et les manifester, à recevoir le discernement par l'Esprit et aussi à marcher par l'Esprit, c'est-à-dire rechercher la sanctification. Cherchons chacun à être rempli à nouveau du Saint-Esprit pour notre vie de service, pour notre avancement comme disciples, pour notre témoignage. C'est assez simple, hein ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, soit je suis vide, soit je suis rempli de plein d'autres choses. Et je crois que nous avons besoin de cette force, de cette puissance, de ce dynamisme que donne l'Esprit Saint. Alors, un grand changement, l'Esprit de Dieu est donné à chaque enfant de Dieu. C'est la promesse pour chaque croyant. Et c'est ce que Pierre explique dans un des passages de ce qu'il dit. Il leur dit « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Vous voyez qu'on est cité dans ce verset. On fait partie de ceux qui sont au loin, dans le grand nombre. Pierre leur dit « changez radicalement ». Dans les versions, d'autres versions, c'est « repentez-vous, convertissez-vous ». Alors aujourd'hui, le mot « se convertir » est utilisé pour bien d'autres choses. On convertit un fichier en PDF. On se convertit à la nourriture bio ou à l'électrique pour les voitures. Dans le texte original, en grec, c'est le mot « métanoïété ». Littéralement, brut des décoffrages, métanoïété, ça veut dire changer de mentalité, changer de manière de penser. Vous pensez que vous pouvez vivre votre vie sans le Christ qui est mort et ressuscité ? Eh bien, changez de mentalité, embrassez la foi en Jésus le Christ et faites-vous baptiser. Vous pensez que vous pouvez régler vos fautes, vos péchés tout seul, par une conduite équilibrée, en compensant vos mauvaises actions par des bonnes œuvres ? Changez de mentalité. En acceptant Jésus, vous recevrez le pardon des péchés. Vous pensez pouvoir vivre votre vie spirituelle avec votre propre ressource personnelle, votre petite force à vous ? Changez de mentalité. Recevez le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité, qui vous aidera dans vos moments de faiblesse, qui vous aidera à comprendre l'Écriture et à la mettre en pratique, et qui vous donnera la force, la puissance d'être des témoins du Christ vivant. Alors un dernier mot sur la prise de parole de Pierre, car nous avons un problème. Le problème se trouve dans nos Bibles. Certaines de nos Bibles intitulent, vous savez, rajoutent des titres, et intitulent ce passage comme « Le discours de Pierre » ou alors « La prédication de Pierre ». Et bien sûr, ces deux termes, discours ou prédication, s'appliquent certainement au genre littéraire, mais pas du tout à la situation. Est-ce que vous pensez que Pierre, il avait préparé son discours à l'avance ? Ben non. Est-ce que vous pensez que Pierre, il a parlé dans le cadre d'un planning des prédications comme on a nous, où tel dimanche c'est machin, le dimanche d'après c'est truc ? Non. Il a improvisé. On lui a posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis il s'est mis à parler. Et ça, c'est passionnant parce que, du coup, cette prise de parole, ce n'est pas un discours préparé, ce n'est pas une prédication planifiée, mais c'est une réponse qu'il a donnée parce que des gens lui disaient « Mais explique-nous un peu là, qu'est-ce qui se passe ? Explique-nous ta foi. Mais en quoi tu crois, toi ?» Et je pense qu'on peut s'y retrouver dans cette prise de parole de Pierre. Pris au dépourvu, à l'improviste, il a parlé. Voilà. Alors, on ne va pas le faire là parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais moi, je vous invite à regarder comment il a parlé à ces gens, comment il leur a répondu. Il a cité certains versets bibliques, des psaumes, des prophètes. Ça veut dire qu'il les connaissait par cœur. Est-ce que nous avons, dans notre petit bagage qu'on promène tous les jours avec nous, quelques versets pour pouvoir parler de notre foi. Alors il a pris la parole car c'est l'Esprit qu'il a un peu pris au dépourvu. Il faut que je retrouve où j'en suis dans mes notes, excusez-moi. Alors, je voudrais noter deux éléments aussi sur lesquels mon attention s'est portée. Donc, on se rend compte, et ce n'est pas nouveau, parce que tout au long de l'Évangile, on voit que c'est pareil, et dans notre vie, on le voit aussi, que quand on parle de notre foi, il y a deux catégories de personnes. Celles qui sont touchées, celles qui sont intéressées, et à l'inverse, celles qui se moquent. Et moi, je me suis dit, intuitivement, dans le cadre de mon témoignage personnel, je vais plutôt m'occuper des personnes intéressées, ça sera plus facile, plutôt que m'occuper de celles qui se moquent. Eh bien, on voit que là, Pierre, il fait totalement le contraire. Il répond aux personnes qui se moquent, en leur disant, mais non, c'est 9h du matin, on n'a rien bu. Et puis surtout, il leur fait part d'une empathie particulière en leur disant, homme, frère. Il leur dit pas, hé, bro, non, mais c'est homme, frère. Là, ça a du fond. Hein. Il se met à leur niveau. On est ensemble. Le deuxième point qui peut nous encourager dans notre témoignage, c'est qu'on voit qu'à aucun moment, Pierre ne se met dans l'idée de faire un exposé théorique. Il ne se lance pas dans un débat théologique ou philosophique. Non, il parle que d'une chose, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a connu. Il l'a rencontré, ce Jésus. Il a passé 3 ans avec lui. Il l'a vu mourir sur la croix. Il l'a vu ressusciter. Ils ont passé 40 jours où Jésus est venu les enseigner régulièrement. Il parle de ce qu'il connaît, pas de ce qu'il ne connaît pas. Il parle de ce qu'il a vécu, pas de ce qu'il n'a pas vécu ou de ce que d'autres ont vécu. Et ça, c'est notre témoignage. Parlons de ce que nous vivons. Évitons les débats, les discussions théoriques. Parlons de qui est Jésus pour nous, à notre niveau, à notre portée. Parlons de l'amour de Dieu, le Père éternel qui nous appelle ses enfants. Alors j'en viens à la troisième partie de ce chapitre, les versets que nous avons lus au début. Et donc je disais, certains éprouvent une nostalgie pour cette description de la première église de Jérusalem, comme si c'était un paradis perdu, un idéal à atteindre. Alors malheureusement, j'ai 2 mauvaises nouvelles à vous partager. La première, c'est que c'était il y a 2000 ans. Il va falloir inventer une machine à remonter le temps. La deuxième, c'est qu'on lit dans le livre des Actes que l'église de Jérusalem, elle a une durée très courte. L'expérience qui nous est racontée a pris fin quelques années après la première Pentecôte. Luc écrit ça dans Acte 8, la fin de cette première église. Elle a été dispersée à la suite du meurtre d'Étienne. Saul, c'est le chapitre 8. Saul, celui qui deviendra notre Paul, approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, donc le jour de la mort d'Étienne, une grande persécution s'abattit sur l'église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul, lui, ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole, comme une bonne nouvelle. Vous voyez, une grande persécution contre l'église de Jérusalem est lancée et on se rend compte que Saul est à la manœuvre. La majorité des disciples et des membres de l'église s'échappent de la persécution et se dispersent dans les alentours, la Judée, la Samarie. Les historiens estiment que la vie de l'église de Jérusalem a été d'une durée entre 5 et 7 ans. C'est très court, très très court. Ça correspond aux années 29, 30, 34, 35. Moi, ça me fait penser, vous savez, les enfants qui prennent une graine de pissenlit. Les graines, elles sont toutes rassemblées. Et puis, ils s'ouvrent dessus. Et les graines se répandent. Et elles poussent plus loin. C'est ce qui nous est dit. Hein. Là où ils passaient, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Alors, ce passage, ces derniers versets nous réconfortent, nous donnent des directions. Et il y a, bien sûr, ce qu'on appelle les quatre persévérances, les quatre piliers de la vie de cette première communauté. Tout d'abord, l'enseignement des apôtres. Les apôtres, vous savez, c'était les 12 disciples. C'était passé à 11, c'était revenu à 12. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. C'était les plus proches de Jésus, ceux qui avaient vécu avec lui pendant 3 ans. On pourrait dire, mais c'était quoi l'enseignement des apôtres ? Ben nous, on a un exemple, c'est la prise de parole de Pierre. Voilà, c'est leur manière de faire part de qui était Jésus. À cette époque-là, le Nouveau Testament n'avait pas été écrit. Donc ils persévéraient dans ce que les témoins vivants, oculaires, avaient et apportaient. Nous, maintenant, nous avons les évangiles qui ont été rédigés depuis. Nous avons les lettres des apôtres, principalement Jean, Pierre, Paul. Et ce que nous appelons maintenant l'écriture, la parole de Dieu, à cette époque, n'avait pas été écrit, en tout cas la deuxième partie. Mais nous aussi persévérons. Persévérons dans notre découverte, dans notre lecture de la Bible. Certains pensent que l'enseignement des apôtres, ça représente aussi le fait que les disciples partager avec les autres l'enseignement des apôtres. Les disciples, ils n'avaient pas forcément vécu avec Jésus, mais ils partageaient le témoignage des apôtres, de Pierre, de Paul, de Pierre, de Jean, des uns et des autres, qui avaient vécu avec le Christ. Ils persévéraient donc à répandre l'enseignement des apôtres, à témoigner de leur foi autour d'eux, dans leur famille, leur voisinage, dans leur travail. Et c'est ce que nous pouvons faire, nous aussi. Et d'ailleurs, le passage, vous vous rappelez, se termine avec les effets que ça produit. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, il est dit. Le premier pilier, donc, l'enseignement des apôtres, qui contient à la fois la nourriture de la Bible et la nourriture du témoignage que l'on va rendre. Le deuxième pilier, c'est ils persévéraient dans la prière. On voit qu'ils priaient dans leur maison et aussi tous ensemble. Alors, vous rappelez cette phrase que la prière, c'est la respiration du croyant, comme disait un auteur. Nous aussi persévérons dans la prière. Personnellement, si on a du mal à prier seul, prions en petit groupe, en communauté. Les groupes de maison vont reprendre début octobre. Ça sert à ça. Il persévérait, le troisième pilier, c'est la communion fraternelle, d'un même cœur, tous ensemble. Ils vivaient une harmonie relationnelle donnée par le Saint-Esprit. Mais cette communion fraternelle, ce qui est formidable, c'est qu'elle débouchait sur des actes. Comme il y avait beaucoup de pauvres à Jérusalem, ils ont décidé de partager leurs biens afin que tous puissent vivre dignement et que le besoin des uns dans la communauté soit couvert. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils ont vécu. Ils ont fait le constat adapté à la situation de l'Église. Et ils ont trouvé une manière d'y répondre, en fonction de leur contexte, une réponse adaptée. Alors je sais que, je pense que tous les croyants se posent la question de se dire, mais est-ce que je dois vendre ma maison et tout donner à l'Église ? Est-ce que ma résidence secondaire, je dois la vendre ? Ce qui est frappant, c'est de constater que jamais, dans les lettres de Paul, de Pierre, de Jean, jamais ils ne disent « faites comme ils ont fait à Jérusalem ». Comme si c'était quelque chose qui avait été donné pour cette Église. En revanche, ils disent « faites attention, soutenez-vous, que les riches prennent soin des plus pauvres ». Que personne ne manque de rien. Et même Paul, vous rappelez, va inciter les églises riches de l'Europe ou de ce qu'on appelle la Turquie, hein, Corinthe, Éphèse, etc., à soutenir financièrement les églises pauvres de Jérusalem et de la Judée lorsqu'elles traversaient une énorme famine. Alors certains font remarquer aussi que cette mise en commun des biens a généré pour l'Église de nombreux problèmes. C'est ce que nous lisons dans la suite. Il nous en est raconté deux principaux, en acte 5 et en acte 7. En acte 5, certains se disent « on va donner pour se faire bien voir ». Ananias et Saphira. L'autre problème est assez stupéfiant. Le partage des biens crée de la jalousie entre les veuves d'origine juive et les veuves d'origine païenne, c'est-à-dire grecque. Certains, enfin plutôt certaines dans ce cas-là, sont bien moins traités que d'autres. Est-ce que c'est un peu de nationalisme ou du racisme? Je ne sais pas. En tout cas, la réponse est forte, parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes qui sont nommées pour s'occuper de la distribution des biens et qu'elle soit équitable. C'est sept personnes. Ça montre peut-être l'ampleur du nombre de personnes qui étaient dans la pauvreté. Alors il est dit aussi, le quatrième pilier, il persévérait aussi dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Cène, partagée entre eux pour se remémorer la mort et la résurrection de Jésus. Alors là encore, notons quelques différences avec nous. Eux, ils se réunissaient au temple. Bon, nous, on n'a pas de temple à Nîmes, en tout cas pas au sens de celui de Jérusalem. Et de toute façon, il a été détruit en 70. Quand ils se réunissaient tous ensemble au temple, ils ne prenaient pas la Sainte Cène. Ils la prenaient chez eux. C'est une grande différence avec nous. Nous ne faisons plus pareil. Nous, nous préférons vivre la Sainte Cène de manière communautaire quand nous sommes tous réunis le dimanche matin. Alors j'arrive à la fin. Persévérons donc dans la vie collective de l'Église par notre engagement dans la prière, notre engagement à lire la Bible, à témoigner, à partager la communion fraternelle et faire en sorte qu'elle débouche sur des actes concrets. Et gardons au centre de nos vies la mort et la résurrection de Jésus, qui est symbolisé par le pain et le vin que nous partageons. Tout cela était le résultat de la présence de l'Esprit parmi eux. Un grand changement. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ce grand changement? Est-ce que vous êtes prêts à chercher à être rempli de l'Esprit? À nouveau, encore et encore. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui réchauffe nos cœurs, qui nous fait du bien, qui nous donne envie d'aller plus loin. Nous avons soif, Seigneur, que tu viennes nous remplir à nouveau de ton esprit pour que nous puissions vivre toutes ces dimensions que vivaient ces premiers disciples et qui sont rappelées pour notre encouragement, pour nous permettre d'aller de l'avant. Si j'ai du mal avec la communion fraternelle ou la prière ou le fait de me rappeler la présence de Jésus, de sa mort, de sa résurrection dans ma vie, si j'ai du mal avec le fait de me nourrir de ta parole et d'être un témoin qui ouvre sa bouche, viens me donner ta puissance, viens me donner ta force, viens me donner ce qui me manque. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous un peuple prophète. Nous te disons à nouveau, remplis-nous Seigneur. Amen.
Merci beaucoup. Merci Loïc. On peut l'applaudir.